9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
D'abord, une précision familiale qui a toute son importance, vous allez voir, puisque le personnage dont je vais vous parler, le duc de Morny, Charles-Auguste de Morny, est le fruit de l'adultère. Sa mère est une figure célèbre de l'histoire, puisque c'est la fille de Joséphine, Hortense de Beauharnais, l'épouse de Louis Bonaparte, vous savez, celui qui était roi de Hollande. Donc, Hortense de Beauharnais est la mère de notre Charles-Auguste. Quant à son père, c'est un général et aide-de-camp de Napoléon, lui-même fils naturel de Talleyrand, vous voyez un peu le genre de filiation que ça peut donner. Le père en question, c'est le comte de Flahaut. Ce qui veut dire que dans les veines de Charles-Auguste coule le sang de l'impératrice Joséphine et du ministre Talleyrand, le roué politicien, vous imaginez ça. Hortense, par ailleurs, est la mère de Louis-Napoléon Bonaparte, celui qui va devenir Napoléon III. Autant dire que Morny est le demi-frère du futur Napoléon III. Il était né en 1811, tout à fait en secret, évidemment, dans des circonstances rocambolesques, élevé par sa grand-mère maternelle. À sa majorité, il s'auto-attribue le titre de comte de Morny. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, me direz-vous. Et il va faire son chemin en tant qu'homme du monde, industriel, sous la monarchie de Juillet. Il va se créer vraiment une grande fortune, se faire élire député de Clermont. On est là en 1842. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il est orléaniste, hein? C'est un conservateur qui aime faire des affaires. Personnage assez étonnant. Il est talentueux, jouisseur, avec un sourire toujours un peu hautain, extrêmement élégant, éminemment intelligent et sans scrupules. Il a de qui tenir, évidemment, par Talleyrand. Fastueux, cynique aussi sans doute. Une sorte de mélange d'aristocrate de l'Ancien Régime et d'industriel du tout nouveau régime. Voici la description qu'en donne le comte d'Altonchi. Sans être véritablement beau, il avait la physionomie fine et bienveillante de l'élégance, de la distinction. Il était admirablement proportionné, fort adroit à tous les exercices, un de nos meilleurs gentlemen riders. Aussi, parfois rival heureux du duc d'Orléans, il avait obtenu près des femmes d'éclatants succès. Instruit par un mondain, ayant le goût de la paresse et la faculté du travail, une foi absolue en lui-même, de l'audace, de l'intrépidité, du sang-froid, un jugement sain, de l'esprit, de la gaieté, plus capable de camaraderie que d'amitié, de protection que de dévouement, amoureux du plaisir, décidé au luxe, prodigue et avide, plus joueur qu'ambitieux, fidèle à un engagement personnel, mais n'obéissant à aucun principe de politique ou d'humanité, rien ne gênait la liberté de ses évolutions. Je trouve ce portrait tellement remarquable qu'à la limite, on pourrait presque s'en tenir là. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Cet homme-là est très sûr de lui, mais il ne s'embarrasse pas de scrupules. Il va donc probablement aller loin, aller très loin. Il a une maîtresse à partir des années 1830, Fanny Lehon, qui va le rester pendant 20 ans. Elle est l'épouse de l'ambassadeur de Belgique, figurez-vous, fille d'un riche banquier industriel rhénan. Ça n'empêchera pas son amant d'aller voir ailleurs et de rester le libertin des libertins.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et le régime de la monarchie de Juillet peut pas durer éternellement. Révolution de 1848, avènement de la Seconde République, tout ça est très embêtant pour le duc de Morny, enfin qui se fait appeler à l'époque comte de Morny. La situation économique est difficile, la bourse s'effondre, les milieux d'affaires sont littéralement terrorisés par l'avènement de ces républicains dont on ne sait pas s'ils vont faire tellement de bien aux affaires. Dès 1848, Morny sent qu'il va falloir un homme providentiel pour ramener la France dans la voie de l'ordre, dans la voie de l'autorité. Mais à l'époque, il pense pas encore à Louis-Napoléon. Il faut vous dire qu'il ne l'a encore jamais rencontré. Que l'ordre revienne donc dans notre pauvre pays, n'importe par qui, dit-il. Mais quand il apprend que Bonaparte, que Louis-Napoléon, s'est fait élire député, visant à l'évidence la présidence, là, Morny se dit qu'il y a peut-être de l'intérêt à suivre la carrière fulgurante de ce demi-frère qui se rapproche du reste de la légende impériale. Lui-même va essayer de se mettre dans les petits papiers de Louis-Napoléon. Il va se rendre de plus en plus indispensable. Le prince Louis va écraser ses adversaires et quand il sera au pouvoir, il ne pourra pas se passer de moi, dit-il. On peut dire que les deux hommes, quoique demi-frères, ont des caractères vraiment très différents. D'ailleurs, a priori, ils ne s'apprécient pas tellement. Seulement, Louis-Napoléon a besoin de l'extraordinaire carnet d'adresses de Morny, de ses réseaux extrêmement efficaces, de sa connaissance des affaires aussi et de la politique. C'est vrai qu'il n'est pas très entouré, le prétendant Bonaparte. Il sent la nécessité d'appeler à ses côtés un spécialiste. Il lui aurait dit, lors de leur première rencontre, « Vous avez un grand rôle à jouer dans l'avenir de la France. Cet avenir est chargé d'orages et les hommes de bonne volonté ne sont pas trop nombreux. J'aurais besoin de vous. » Finalement, Louis-Napoléon parvient à se faire triomphalement élire président de la République. On est en décembre 48. Morny devient dès lors ce qu'on pourrait appeler un visiteur du soir de la présidence. Seulement, les affaires de ce Morny, pour le moment, sont toujours au point mort. Ça va vraiment très mal. Il est couvert de dettes, hanté par la crainte du socialisme qu'il voit monter. Il n'y a que l'Empire qui pourrait nous sauver, dit-il. Ah, là, ça commence à se préciser. En attendant, la famille riche de sa maîtresse, la famille Lehon, qui s'appelle les Mosselman, vont accepter de lui avancer un peu d'argent pour une opération destinée à assurer le maintien de l'ordre et de la prospérité. C'est vrai que tous les milieux d'affaires de l'époque redoutent avant tout le socialisme dont on pense qu'il pourrait parvenir au pouvoir, et évidemment les gens qui sont capables de mettre de l'ordre sont très aidés. Ça va faire pour Morny un prêt de 3,5 millions de francs qui servira pour partie à financer ce qui va devenir un coup d'État, mais n'avançons pas trop vite. En 1849, Morny est réélu député. Député conservateur du Puy-de-Dôme. Il s'impose comme l'organisateur du Parti de l'Élysée, c'est le nom qu'il va lui-même donner à cette mouvance, avec un fossé qui se creuse entre Louis-Napoléon et ses partisans, dont fait évidemment au premier rang partie notre duc de Morny, et puis l'Assemblée, dominée par le Parti de l'Ordre et tiraillée entre la peur de la gauche, les Rouges, les Montagnards, et la crainte d'une dictature bonapartiste qui ne ferait pas tellement mieux leurs affaires. Morny conseille à son demi-frère de gagner le cœur de l'armée qui l'acclame lors de ses revues militaires, en prenant des tons napoléoniens, mais aussi en se montrant partout le plus possible dans le pays. Morny incite Bonaparte à faire des bains de foule qui renforcent sa popularité. On entend de plus en plus crier « Vive l'Empereur !»« Oh, vive l'Empereur !» Oui, ça commence à monter, à fuser de partout. Il faut dire qu'il y a des agences stipendiées qui sont là pour développer cette publicité populaire. Un problème majeur va se poser rapidement pour le président Bonaparte, c'est que la constitution de la Seconde République ne lui permet pas de briguer un second mandat. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Ça devient très difficile, vous comprenez pourquoi l'idée d'un coup d'État commence à faire son chemin. Le final de l'orgie des brigands du Harold en Italie d'Hector Berlioz, l'ensemble Les Siècles était sous la direction de François-Xavier Roth.
Vous écoutez Radio Classique.
Il y a autour de Louis-Napoléon Bonaparte un certain nombre de figures plus ou moins efficaces qui vont essayer de le pousser à l'épreuve de force et évidemment à la tête de tous ces gens-là. Il faudrait parler de Persigny et d'autres, mais à la tête de tous ces gens-là, il y a bien sûr Morny qui voit là un moyen de sauver à la fois les intérêts de la France et ses intérêts propres. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'il est par la main gauche le petit-fils de monsieur de Talleyrand, celui-là ? Le coup d'État était pour moi, dit-il, depuis l'avènement du président, ma seule marotte. Je n'ai jamais eu d'autre idée en tête. Je n'ai jamais prévu aucune autre solution possible et je n'en ai jamais prêché d'autre. Ah oui, c'est un homme de conviction, Morny, surtout lorsqu'il y va de ses affaires, n'est-ce pas ? Lorsqu'il y va de l'ordre aussi, car il a un véritable goût pour l'ordre qui, lui, est assez sincère, assez politique. Il n'empêche que Louis-Napoléon Bonaparte hésite. Le président espère obtenir une révision constitutionnelle qui lui permettrait de briguer un second mandat. Ce serait quand même plus propre. Ce serait mieux. Seulement, la veille du vote à la Chambre, il y a un député qui va se lancer dans une diatribe enflammée, adjurant les députés, je cite, « d'arracher aux fourbes de toutes sortes le masque de la légalité ». Vous avez compris qui est le député en question, c'est Victor Hugo, bien entendu. « Monsieur, vous êtes un coquin !» lui lance Morny pendant une interruption de séance. Morny, cette fois-ci, a perdu ses bonnes manières du jockey club. Hein, et il a perdu son sang-froid dans cette occasion. On peut dire que Victor Hugo l'aura fait sortir de ses gonds. Alors, il y a ce vote négatif et c'est parce que le président sait qu'il ne pourra pas briguer de second mandat qu'il se décide au coup d'État. Évidemment, les deux demi-frères vont en parler beaucoup, notamment à la mi-août, à l'occasion d'une promenade dans les jardins de l'Élysée où réside le président de la Seconde République. Louis-Napoléon n'a pas confiance dans le courage des gens qui l'entourent. Il n'en est pas à son premier complot, il en a même fait deux qui ont bien failli lui coûter la vie, mais tout ça a toujours raté. « Si vous ne trouvez personne de mieux que moi, je me mets à votre disposition », suggère Morny. Le 27 août 1851, plusieurs conjurés vont se réunir après une partie de chasse au château de Saint-Cloud. C'est bien Saint-Cloud pour une fin de mois d'août, n'est-ce pas ? Il y a là le préfet de police, Carlier, il y a Victor de Persigny, dont je vous ai tout à l'heure cité le nom, et qui est un vieux complice de Louis-Napoléon, et puis il y a Morny. Seulement, quand le préfet de police Carlier, qui est depuis toujours dévoué à Morny, expose le plan détaillé de son coup d'État, Morny n'est pas convaincu par ce qu'il entend. Voici ce qu'il dit. « Je dois vous dire que je trouve votre plan très vicieux et que s'il doit être exécuté tel quel, je vous demanderai la faveur d'un passeport. » Sous-entendu, moi, je vais me tirer les bottes. Je ne serai plus là pour voir le désastre annoncé de votre initiative mal préparée. Morny veut que les choses soient propres, qu'elles soient rapides. Je le cite, « Il faut que le coup d'État s'accomplisse sans qu'on ait arraché un cheveu à personne, sans une égratignure. Si un homme distingué périt, son sang retombe sur votre tête et sa perte vous est toujours reprochée. » Bref, le complot tel qu'il avait été prévu dans un premier temps est donc ajourné. Un matin de septembre 1851, on a laissé passer un petit peu de temps, c'est Persigny qui débarque chez Morny dans sa chambre alors qu'il est encore au lit avec sa maîtresse Fanny Léon pour lui annoncer, parce que Persigny est toujours l'homme des nouvelles, il lui annonce qu'il a finalement été choisi par Louis-Napoléon pour organiser lui-même le coup d'État. « Dites-lui qu'il peut compter sur moi sans aucune espèce de condition », dit Morny, qui se trouve parfaitement à la hauteur de la situation. Il est rassuré. Heureux qu'on l'ait placé à la tête des opérations, il va se lancer dans l'aventure comme s'il se lançait dans un jeu. Mais c'est un jeu magnifique, c'est un jeu passionnant, même si c'est un jeu à la fin duquel on risque volontiers sa tête. « Je puis dire que je n'eus pas un seul moment d'inquiétude ni d'hésitation, dira-t-il. Je crois pouvoir affirmer que sans moi, le coup d'État n'aurait jamais eu lieu. Le coup d'État va prendre un nom de code qui est Rubicon. Vous rappelez le Rubicon franchi par Jules César. Ça tombe bien puisque tous ceux qui sont là, Louis-Napoléon, Persigny, évidemment Morny lui-même, sont des admirateurs de César. Pendant l'automne, Morny met en place les rouages du complot. Il s'assure d'un certain nombre d'hommes de main, Un gouvernement de paille est également mis en place. Le ministère de la guerre est confié au général Saint-Arnaud, qui est un aventurier sans scrupules, que Morny connaît, et sur lequel il sait qu'on va pouvoir compter sans grand problème, à condition d'aligner un peu d'argent ou d'or. Louis-Napoléon a acheté la complicité d'un certain nombre de personnalités. D'ailleurs, il faudra que Morny ajoute une petite rallonge pour que Louis-Napoléon consente à rester dans le giron des comploteurs, et le général Magnan est nommé commandant de la garnison de Paris. Oui, parce que Magnan, c'est bien. On sait qu'on peut s'appuyer sur lui. Le coup d'État est fixé dans un premier temps au 17 septembre 1851, sauf que c'est pas tout à fait prêt tout ça. Alors, on repousse une fois, on repousse deux fois et encore tant et si bien que ceux qui ont des inquiétudes commencent à se rassurer. Ils se disent que non, finalement, Morny n'est pas aussi dangereux qu'il en avait l'air. La vérité, c'est qu'il attend Morny dans l'ombre. Il attend patiemment le moment idéal. Et ce moment, il va le trouver. Ce sera, pense-t-il, la nuit du 1er au 2 décembre 1851. Le 2 décembre, c'est une date symbolique, puisque c'était d'une part, bien sûr, la date du couronnement de Napoléon à Notre-Dame, mais c'était aussi, un an plus tard, la date d'Austerlitz, la grande victoire de 1805. Alors, pour endormir les soupçons, les conjurés ne changent rien à leurs habitudes ce soir-là. À l'Élysée, c'est jour de réception. Napoléon III affiche un visage impénétrable, inexpressif. Beaucoup d'officiers sont là présents, dont le colonel Vieira, qui est dans le coup et qui commande la garde nationale. Il a fait crever les tambours des régiments pour qu'on ne batte pas le rappel. C'est assez pratique, ça. Le seul qui ne soit pas à cette soirée, c'est Morny, qui a préféré se faire voir de son côté à l'Opéra Comique, avec une présence qui réconforte les milieux d'affaires. Mais non, si Morny est là, c'est qu'il n'est même pas question de coup d'État. À l'entracte, il fait le tour des loges, il salue galamment deux généraux qu'il a l'intention de faire arrêter à l'aube, et à ce moment-là, il y a une mondaine qui arrive et qui lui dit « Mais on assure qu'on va balayer la chambre, que ça va être le coup de balai, mais qu'est-ce que vous allez faire, vous ?» Réponse de Morny, « Ah, madame, s'il y a un coup de balai, je m'efforcerai d'être du côté du manche. » Après quoi, il s'éclipse pour se rendre à l'Élysée, où tous les conjurés sont donc réunis dans le boudoir d'argent, hein, où Napoléon Ier avait signé son abdication en 1815, et où plus tard le président Félix Faure aura son célèbre malaise. Une fois franchi le Rubicon, les conjurés ne pourront pas revenir en arrière. Morny résume la situation. « Il est bien entendu, messieurs, que nous jouons tous ici notre peau. » Ah ben c'est sûr qu'à ce niveau-là de complot, s'ils sont pris, ce sera la mort. Hein. Ça, ce sera le peloton d'exécution. Le programme est mis en place. À l'aube, Morny prendra possession du ministère de l'Intérieur. Le général Saint-Arnaud et ses troupes se tiennent prêtes à agir en soutien de la police pour mater d'éventuelles émeutes. Le préfet de Maupas, qui a remplacé Carlier, doit arrêter une centaine de députés dont on peut prévoir qu'ils s'opposeront au coup de force. Il faut d'ailleurs agir avec la plus grande rapidité. On proclame l'état de siège à Paris, on dissout l'Assemblée nationale, on rétablit le suffrage universel, on fait des adresses à l'armée, exaltant ses vertus, adresse également du préfet de police à la population de Paris pour la rassurer, annonce d'un référendum pour faire approuver le coup d'État par la population et bien sûr, démission du gouvernement. Voyez un petit peu, ça ne se fait pas, c'est pas aussi simple que ça en a l'air de faire un coup d'État. Hein. Napoléon III sort de son bureau 40 000 francs, à charge pour Saint-Arnaud de les utiliser pour distribuer des gratifications. Et une fois que Morny est certain que tout est en place, que tous les rouages fonctionnent à merveille, eh bien ma foi, le voilà parti pour le Jockey Club où il va passer une nuit endiablée à jouer et jouer encore. Thank you. Le final du concerto militaire pour violoncelle d'Offenbach, c'est Edgar Moreau qui était au violoncelle avec l'ensemble Les Forces Majeures sous la direction de Raphaël Merlin.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il est 5h du matin quand le duc de Morny rentre chez lui, se change, se met en route vers le ministère de l'Intérieur, place Beauvau, accompagné du fils de Fanny et de son propre père, le général de Flahaut, qui est là, figurez-vous. Tous les trois arrivent tranquillement, il est 7h du matin et en moins d'une demi-heure, je dis bien en moins d'une demi-heure, tout est réglé. Morny entre dans la chambre du ministre de l'Intérieur et lui annonce galamment qu'il est destitué. Le gros homme en question s'appelle de Torigny. Il s'habille à la hâte, quitte le ministère sans dire un mot. Morny le fera nommer sénateur d'Empire quelques années plus tard pour le récompenser de la belle docilité qu'il a su montrer ce matin-là. On est le matin donc du 2 décembre. Morny est à la tête du ministère de l'Intérieur et sa première tâche, c'est maintenant d'assurer que tous les ennemis potentiels sont sous les verrous. C'est ça qui avait été prévu. Le palais Bourbon est occupé par ailleurs dès l'aube par le colonel Espinasse avec son 42e régiment d'infanterie. Une trentaine de parlementaires et de personnalités dont on peut prévoir qu'elles s'opposeront au coup de force ont été arrêtées dans leur lit en pleine nuit pour les sauver de leur propre courage. C'est ce qu'on va dire et ça donnera lieu à des scènes plutôt vaudevillesques. Beaucoup seront libérés en vérité après quelques jours. Morny fait tout pour limiter les dégâts. Il est agacé par le préfet de police, Maupas, qui pêche par excès de zèle et fait arrêter les gens un peu à tort et à travers. Morny préfère, si vous voulez, limiter les arrestations au strict nécessaire et surtout ménager les membres du parti de l'ordre. Tous ceux dont il sait qu'un jour ou l'autre, ils pourront se rallier à Napoléon, enfin à Louis-Napoléon, si vous préférez. Par contre, il est hanté, comme beaucoup, par le spectre socialiste et il n'hésitera pas à prendre des mesures draconiennes contre les chefs d'un certain nombre de partis de gauche. Tous ceux que vous soupçonnez d'avoir des opinions socialistes doivent être surveillés sans trêve, dit-il. Au besoin, il conviendra de prévenir leur action en les mettant en état d'arrestation. En ce matin du 2 décembre 1851, on n'en décolle pas. Les Parisiens découvrent au réveil des affiches qui sont placardées dans toute la ville et qui annoncent des mesures prises par le président. Elles sont globalement bien accueillies par l'électorat populaire qui redoute le rétablissement du suffrage universel masculin, qui redoute la dissolution de l'Assemblée, mais qui veut une forme de continuité. Il se trouve que l'Assemblée nationale, pour beaucoup des Français de l'époque, dont une immense majorité de ruraux, n'est qu'une bande de bons à rien, je cite un tract de l'époque. À deux parlementaires qui viennent protester contre l'arrestation massive de députés dans la nuit, Morny répond calmement « Messieurs, je joue ma tête dans cette entreprise, vous voudrez bien me permettre de prendre toutes les mesures que je juge nécessaires ». Eh oui, c'est ça aussi la légitimité des fauteurs de troubles en général et tout particulièrement de coups d'État. Au début de l'après-midi, Morny apprend que 50 députés se sont réunis dans la mairie du 10e arrondissement pour proclamer la déchéance du président et l'accuser de forfaiture. Des soldats sont immédiatement envoyés sur place, ils font irruption dans la salle, ils enferment tout le monde dans des paniers à salade et ensuite seulement, ils embarquent tout ça dans des voitures vers Vincennes, ce qui n'est pas sans terroriser tout le monde. On se voit massacré dans les fossés du château. Finalement, ils seront débarqués dans ce qui était autrefois en pleine campagne un fortin, je dirais, et ils seront libérés. Ils n'ont plus qu'à rentrer chez eux, à pied, en pataugeant dans la boue. Le 2 décembre au soir, le coup d'État a l'air d'être parfaitement réussi, sans que le sang ait coulé tout de même. Les conjurés ont la situation en main, ça c'est évident. Et Morny, désormais, attend de voir la réaction des bonnes provinces. Il va communiquer par télégraphe avec les préfets des différents départements. La situation change peu à peu d'aspect, et ce très tôt, hein, dès le 3 décembre. Napoléon III fait le tour de Paris à cheval pour juger les réactions des Parisiens, qui sont un petit peu mitigés, faut bien le dire. Ceux qui nous approuvent sont tièdes, ceux qui nous combattent sont d'un acharnement inexprimable, soupire le préfet de police, Maupas. Les députés de la montagne ont fait afficher sur les murs de Paris un appel aux armes signé Victor Hugo lui-même et qui alerte le peuple sur les dangers de la dictature qui est en train de s'installer. La résistance commence à s'organiser, que ce soit à Paris même ou en province. Morny est agacé que Maupas n'ait pas réussi à anticiper tout ça, et en faisant arrêter Victor Hugo au lieu d'une multitude de personnes sans importance, il est vrai qu'on aurait sans doute évité cette révolution de plus. Décidément, Maupas sait toujours faire ce qu'il ne faut pas, dit-il. Quant à faire ce qu'il faut, alors là, c'est une autre affaire. Les barricades commencent à surgir au sol. Morny tente de rassurer l'Élysée, il prodigue aux militaires des conseils de calme, de discipline, de fermeté. Il connaît les Parisiens, il est bien décidé à faire tout ce qu'il faudra. Il faut laisser les insurgés s'engager tout à fait et des barricades se former pour ensuite écraser l'ennemi et le détruire avec peu de troupes à chaque angle de rue, aux fenêtres. On tient tout un quartier en respect, dit-il. Une résistance s'organise, mais elle est à peu près liquidée à la consternation de Louis-Napoléon qui commence vraiment à s'inquiéter. Voilà ce que lui dit Morny. « Monseigneur, en matière de guerre civile, il n'est point défendu aux chefs de parti d'aller à la bataille avec des gants, mais il ne faut pas, quand la nécessité le commande, que leurs gants empêchent le sang de rougir leurs mains et d'entrer un peu sous leurs ongles. Ce qui compte à cet instant, c'est le résultat, et la vérité, c'est que le coup d'État a réussi. »
Vous écoutez Radio Classique.
D'un duc à l'autre, c'est la tournée des grands ducs ce matin. Voici Christian Morin. Bonjour Christian.
Bonjour mon cher Franck. Je voulais vous signaler que M. Choufleury restera chez lui tantôt.
Ah bon, très bien.
Pour vous écouter à 14h, évidemment. C'est une pièce, une opérette oui. que le duc de Morny avait écrite avec la musique de Jacques Offenbach. Et puis aussi, cette pièce qu'il avait écrite, le titre est assez amusant par rapport à tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Pas de fumée sans un peu de feu. Merci beaucoup. Cet après-midi, vous nous raconterez le SOS Laconia.
Oui, ça c'est une histoire absolument extraordinaire de la Seconde Guerre mondiale.
À tout à l'heure, mon cher Franck, et à demain matin, bien sûr. Bonne journée.